Vous écoutez France Culture.
Réplique Saint-Augustin aujourd'hui avec Frédéric Boyer et Jean-Claude Esselin. Schiller écrit « Nous voulons être et rester citoyens de notre époque selon le corps, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais, ajoute Schiller, selon l'esprit, c'est le privilège du philosophe et du poète de n'appartenir à aucun peuple et à aucune époque, mais d'être au sens propre du mot citoyen de toutes les époques. Ce privilège, Frédéric Boyer nous invite à le partager en publiant une nouvelle traduction des confessions que saint Augustin écrivit aux alentours de 397-400, quelques années après qu'il fut devenu évêque d'Hippone. Que peut-on attendre de cette contemporanéité ou de ce télescopage des temps? Nous tâcherons de répondre à cette question avec Frédéric Boyer et avec Jean-Claude Esselin, qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit et qui a publié, entre autres, Saint-Augustin, l'homme occidental. Mais d'abord, c'est le titre, le nouveau titre qui nous requiert. En effet, vous avez, Frédéric Boyer, audacieusement rebaptisé Les Aveux, le livre le plus célèbre d'Augustin. Il y a là un incontestable effet de surprise. Mais ce titre choc, ce titre inédit, ne sacrifie-t-il pas à la volonté de faire du neuf avec du vieux la précieuse polysémie de la confessio qui est tout ensemble et d'un seul tenant profession de foi, louange de Dieu et aveu des défaillances? Frédéric Boyer.
Si, d'abord, c'est un choc que je revendique, que j'assume, que j'ai voulu, parce que traduire, c'est aussi cela, et surtout traduire des textes anciens, et surtout traduire un texte comme celui-là, qui est un texte, vous dites, un texte très connu, mais il suffirait de faire un petit sondage autour de nous pour voir que plus personne ne le lit vraiment, que ce texte n'est plus connu que par son titre, je suis sûr, même chez les étudiants et même chez beaucoup de nos contemporains. Justement, ce titre, d'une certaine façon, titre ultra connu, fait obstacle, à mon avis, aujourd'hui, à l'accès au livre. Et deuxièmement, traduire, c'est tout traduire. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait de traduire un titre, parce que ce titre est déjà, a déjà été inscrit dans une série de traditions. Troisièmement, ça n'est pas débaptiser l'œuvre, c'est aussi un moyen de retracer un chemin vers une œuvre qui est capitale pour moi, en tout cas personnellement, et je pense effectivement capitale pour beaucoup d'entre nous et pour notre histoire et notre destin. Ensuite, et c'est la dernière raison, c'est que le titre du livre original est Confessionum Mearum Libri Tredecim, les 13 livres de mes confessions, de mes aveux. Confessio en latin veut d'abord dire confiteor signifie d'abord je reconnais, j'avoue, je révèle, je dévoile. Vous trouvez, en ce moment, je travaille pour un autre projet romanesque autour d'Ovide et de Virgile, et on rencontre confiteor pour dire j'avoue, je reconnais, voilà. Donc, et saint Augustin, avant d'être saint Augustin, saint Augustin est un latin. Un professeur de rhétorique, quelqu'un qui a lu ses classiques, et il est dans cette langue latine en mutation, et il est en même temps dans ce christianisme en effervescence. Donc, traduire par les aveux, c'est une volonté effectivement de choquer un choc salutaire, j'espère, qui invite à la lecture, mais aussi pour rappeler que la confessio fidei au départ, c'est bien l'aveu de sa foi, et que c'est ce qui va bouleverser le monde antique romain, c'est que tout d'un coup, une religion, une relation à Dieu passe par l'aveu. J'avoue que je suis à ce Dieu. J'avoue que je suis reconnaissant à ce Dieu.
Jean-Claude Esselin, Est-ce que vous êtes convaincu par cette retraduction ou est-ce que vous voyez éventuellement un appauvrissement du sens originel?
Vous dites que confession en latin veut dire publiquement, exprimer publiquement. Dans ce livre, qui a une dimension publique encore beaucoup plus importante que nous n'imaginons, qui n'est pas du tout un travail uniquement sur la vie intérieure. Donc il s'agit d'une confession publique et d'une expression publique. Alors, si on prend les trois sens auxquels Augustin applique le mot confession, confessio fidei, donc confession de foi, confession de louange et confession de péché, je trouve que votre titre convient bien pour aveu de péché. Comme vous le dites, un peu aveu de foi, surtout, je dirais, au XXIe siècle, pour avouer la foi, il faut déjà un certain courage parfois. Mais confessio laudis, confession de louange, aveu de louange, il faut avouer que là, vous éprouvez une difficulté. Hein, pour ce sens-là, aveu de louange, qui est quand même aussi important que aveu de péché ou aveu de foi, je trouve que là, ça frotte un peu et ça gêne un peu.
Mais je suis entièrement d'accord et je trouve que c'est là où c'est beau. C'est là où c'est beau. C'est-à-dire, je trouve, et il m'est arrivé de traduire... De traduire « j'avoue Dieu », quand il dit « eh bien, je trouve » ou « je t'avoue mon Dieu », je trouve qu'aujourd'hui, dans la langue française, aujourd'hui, ça a une force, si vous voulez, que je confesse mon Dieu, que je trouve plus faible. Voilà, c'est après, je suis entièrement d'accord, je l'explique dans l'introduction, le rapport à l'exémologèse grecque, donc effectivement, qu'il y a ces trois sens. Quoi qu'encore, on pourrait aussi discuter que ces trois sens sont venus à ce moment-là de l'expression écrite... De la confession, que c'est aussi la réception de l'œuvre et de saint Augustin qui a construit peu à peu ces trois sens qui sont justes. Mais je trouve, pourquoi pas dire que dans l'aveu, il y a louange. Oui. Pourquoi
mais
pas,
pourquoi pas. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas une évidence, en
mais
tout cas.
Mais si, parce que c'est ça la force. C'est ça la force. C'est de faire de mon aveu une louange. C'est ça la force. Si vous dites confession...
Non, mais avec aveu, franchement, j'admets votre choix. Je l'admets tout à fait. Bon. Mais avec aveu, vous tirez quand même ce texte un peu du côté de l'intime et du psychologique, un peu que vous le vouliez ou non.
Si, je reconnais.
Et tandis que confessio, dès qu'on se souvient un peu de ce qu'est le monde romain et le monde latin, on sent qu'il y a quand même une dimension publique.
Et il faut ajouter que la louange de Dieu est omniprésente dans le livre. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, Augustin fait l'aveu de ses péchés, il est à cet égard extrêmement sincère, mais la part de la louange est très importante dans le livre, et j'aurais sinon une autre objection, du moins une autre perplexité à faire valoir. Ce livre, nous le reconnaissons tous, et nous le voyons même à la lecture, est inaugural, donc une tradition est née. Et quand Rousseau baptise son livre « Les Confessions », il pense nécessairement à saint Augustin. Donc n'êtes-vous pas, vous, traducteur, tributaire de cette tradition? Et faudra-t-il rebaptiser l'œuvre de Rousseau « Les aveux » pour, en quelque sorte, la mettre à jour? Et j'ajoute d'ailleurs que ce titre s'appliquerait bien plus à Rousseau qu'à saint Augustin, parce que les aveux des péchés ou des ridicules ou des obsessions y tiennent une plus grande place que la louange, l'action de grâce envers Dieu. Mais que faites-vous de cette tradition-là, comme traducteur? Parce que traductor et traditore, mais le traducteur peut-il trahir la tradition en allant jusque-là?
Frédéric Boyer. Oui, mais je ne veux pas que la discussion tourne autour de ça. D'abord parce que je trouve que c'est pas honnête par rapport au travail que j'ai fait. Je ne dis pas que je débaptise, je refuse de dire ça, et ça a été d'accord avec mon éditeur. On dit les aveux, une nouvelle traduction des confessions, et bien sûr que le titre de la tradition restera. Je n'ai aucune prétention à vouloir changer le titre de quoi que ce soit. Je dis que c'est en tant que... c'est ma seule prétention, c'est que je suis d'abord un écrivain, je suis d'abord un poète, et c'est dans ce travail-là, personnel, d'écriture, que moi, j'inscris mon travail de traduction. Voilà, je n'ai pas... Voilà. Et ensuite, alors voilà, donc c'est la réponse, je ne débaptise pas. Et au contraire, je m'inscris dans cette tradition et je la travaille, cette tradition. Et je dis qu'aujourd'hui, si on ne veut pas travailler les traditions de l'intérieur, en les déplaçant, en tenant bien sûr cette tradition, mais se mettre à l'intérieur, les réhabiter, les déplacer, les faire entendre aujourd'hui, eh bien nous allons mourir avec des petits ghettos de tradition. Et voilà, et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Donc ça, c'est la première question. Et que de toute façon, aucune tradition ne se transmet sans effectivement une part de déplacement et sans une part de provocation. Ça n'est pas possible autrement. Les grands textes aujourd'hui, nous devons les reprendre, les réhabiter, les retraduire. Moi, j'ai une passion pour le XVIe siècle français, siècle qui a fait naître la France littéraire dans laquelle nous essayons encore de tenir. Ça a été un siècle de traduction, même de paraphrase, même de déplacement. Je pense au poète de la Pléiade, je pense au XVIe siècle, il y a eu 3-4 traductions de la Bible.
Nous ne sommes pas là du tout pour critiquer le choix que vous avez fait, mais pour en évaluer, en entendre les conséquences. Alors, donc, pour le futur, étant donné qu'il s'agit d'un texte de tradition, il y a un certain poids. Et moi, je dirais, si on pense à confession de louange, c'est-à-dire aux psaumes, car les psaumes sont des louanges, il y a un lien très étroit entre les confessions d'Augustin et le livre des psaumes. Donc, en amont aussi, c'est peut-être dommage de perdre ce sens de la louange qui caractérise les psaumes.
Bien, alors, je voudrais que nous restions un instant encore sur la traduction avant d'en venir à l'effet Augustin, si vous voulez, mais d'un autre point de vue. À plusieurs reprises, vous employez, Frédéric Boyer, l'expression « tout ça ». Je pense à tout ça, à la trappe tout ça, la laideur de tout ça. Vous dites à un moment donné aussi « cette pute d'âme humaine ». Ou bien, là où d'autres diraient beaucoup de philosophes, vous faites dire à saint Augustin « pas mal de philosophes ». Là, c'est une question de langue. Autrement dit, est-il utile d'acclimater Augustin à notre langue relâchée d'aujourd'hui, ou bien pourriez-vous dire qu'il y a effectivement une correspondance entre la langue de saint Augustin et cette langue-là? Parce que là, c'est une vraie question. On parle souvent de la nécessité de dépoussiérer les classiques. C'est même devenu un objectif pédagogique. Je ne pense pas que ce soit votre volonté. Mais vous voyez, par rapport à ce que disait Schiller, c'est-à-dire, on peut vouloir être citoyen de toutes les époques, c'est-à-dire élargir le présent et sortir de la prison du présent. Mais on peut aussi enfermer les autres époques dans cette prison même, dès lors précisément qu'on leur impose, à leur corps défendant, notre langage. Première perplexité. Deuxième perplexité, j'en aurai terminé. Vous reprenez d'ailleurs une opposition qui était déjà présente dans la nouvelle traduction de la Bible que vous avez dirigée et sur laquelle nous nous sommes déjà entretenus dans cette émission. Une opposition entre la chair et le souffle. Mais là, justement, si vous voulez, là, le lecteur moderne est plus perdu, me semble-t-il, que par l'opposition ancienne. Quand Arnaud Dandy, le traducteur de Port-Royal, donc 17e siècle, traduit « la chair combattait contre l'esprit et l'esprit contre la chair »,« la chair combattant contre l'esprit et l'esprit contre la chair », il ne faisait pas ce qu'il voulait pouvoir faire, et ainsi, il retombait dans les joies du monde. Et vous vous dites, comme dans la chair, en son désir, s'oppose au souffle et le souffle à la chair, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Mais l'opposition du souffle et de la chair, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. L'opposition de la chair et de l'esprit, quand bien même on serait inculte, on comprend. Donc, vous voyez, je fais part d'une double perplexité, Frédéric Boyer.
Alors, attendez, là, il y a beaucoup de questions. D'abord, je vais répondre à la plus simple, qui est cette pute d'Amen. Le mot latin, c'est meretrix, meretrix, meretricis, qui veut dire prostituée. Voilà. Alors, c'est traduit, je crois que Dandy dit cette âme est une courtisane. Bon, d'accord, c'est fait aujourd'hui. Dans la traduction de la Pléiade, je pense qu'il peut être prostituée. Donc, moi, je mets cette pute d'âme humaine. Je mets cette pute d'âme humaine parce que c'est le sens précis du mot latin. Et. Alors, j'y mets peut-être plus de violence, mais ça, on n'en sait rien. Mais je crois qu'il y a une vraie violence, là, qui est présente dans tout le texte des Confessions. Hein, une violence sur les désirs, sur l'envie. Donc là, j'assume complètement d'avoir traduit par pute d'âme humaine. Je pense que c'est le mot latin, meretrix. Alors, prostituée, pute, putain, Alors, après, les ça et les tout ça... D'abord, il n'y en a pas tant que ça dans
Il y en a quelques-uns.
Il y en a quelques-uns.
J'ai relevé. Bien sûr qu'il n'y en a pas tant que ça.
Je l'assume.
Mais c'est un choix.
Je voudrais
savoir à quoi ce choix correspond-il.
C'est un choix poétique, d'écriture. Alors, vous parlez de relâchement. Bon, ben, si vous voulez, ça ne me dérange pas, moi. Mais c'est aussi inscrit dans une écriture globale qui n'est pas une écriture très relâchée. Enfin, l'idée est aussi... On pourra en dire un mot sur l'ensemble de la traduction. L'idée est d'aller vers une traduction qui soit beaucoup plus incisive, presque plus violente, presque plus directe, effectivement, que beaucoup de traductions contemporaines. Voilà, c'est tout. Donc, après, alors, je veux bien que de temps en temps, ça aille trop loin. Et ensuite, sur Cher et souffle. Bon, oui, je revendique, mais vous l'avez dit, ça, je ne vais pas me réexpliquer là-dessus. C'est un travail ancien. Voilà, moi, je revendique la possibilité, dans le langage chrétien contemporain, d'essayer de faire bouger les mots, les sens des mots. Voilà, c'est un travail personnel, enfin, que j'ai fait avec d'autres, mais qui, moi, m'intéresse. Alors, on peut me dire, ça ne va pas, ben, ça ne va peut-être pas, mais moi, je trouve ça intéressant de le faire aujourd'hui. Voilà.
Bon. Alors,
Jean-Claude Desselin.
Moi, je vais vous faire une ou deux remarques plus froides, plus techniques. J'admets votre option d'ensemble. Bon. Mais, par exemple, vous en arrivez à des choix tout à fait discutables. Une des grandes difficultés des Confessions de Saint-Augustin et du langage qui a été chrétien pendant longtemps, c'est de traduire tous les mots concernant le désir. Libido, cupiditas... Concupiscentia, desiderium, etc. Bon, les mots sont très nombreux. Vous avez un certain nombre d'options. Mais par exemple, quand vous dites à un moment dans le livre 10, j'ai donc étudié les symptômes de mes fautes dans les trois dimensions du plaisir, alors là, le mot plaisir vraiment n'a rien à voir alors qu'il s'agit de cupidité, de désir. Le plaisir, finalement, c'est une chose excellente que les philosophes et Augustin le premier, la Delectatio, mettent en avant. Je dirais dans l'esprit public, puisque vous luttez pour que l'esprit public puisse de nouveau s'ouvrir à ce texte, eh bien, si vous traduisez un mot qui signifie désir, avec une nuance négative, par plaisir, vous embarquez encore le plaisir comme plus ou moins condamné par Augustin. Vous voyez, c'est sérieux, cela. Et de même, ce qui est frappant, c'est que beaucoup de ces mots qui maintenant ont une nuance négative, comme concupiscence, cupidité, libido, ne l'avaient pas forcément à l'époque. Ils ne l'avaient pas pour l'adversaire d'Augustin, Julien Desclanes. Et c'est dommage que parfois vous n'ayez pas gardé le mot désir. Vous parlez à un moment de la pulsion sexuelle. Ben là, je rejoins un peu Alain Finkielkraut. Je préfère désir sexuel ou désir à pulsion sexuelle.
Frédéric Boyer. Bon, non, si vous voulez,
je sais que en faisant ça, je savais bien que j'allais avoir. D'abord, je reconnais comme tout traducteur.
Vous voyez,
je
reconnais pas comme spécialiste.
Sur l'ensemble de ça, il y a peut-être des moments où j'aurais moi aussi quelques repentirs. Mais alors là, il faudrait qu'on prenne le texte latin sur la phrase que vous avez citée. Pour moi, le mot plaisir aujourd'hui, effectivement, ce que j'ai peut-être
je l'emploie de façon peut-être plus facile et plus large que vous le souhaitiez, peut-être, effectivement. Après, surtout le vocabulaire, j'ai essayé de faire très attention et au contraire, effectivement, alors effectivement d'aller dans un sens plus contemporain. Voilà, je pense qu'effectivement, quand Augustin parle de sexualité, il parle de sexualité. Alors vous préférez désir sexuel à pulsion sexuelle, je peux pas discuter de ça. Bon, peut-être, voilà. J'ai voulu, alors, c'est quelque chose de peut-être plus, une intention plus littéraire. Moi, j'ai voulu faire entendre quelque chose de ça. Comment dire, de son choc, enfin, de sa violence, de son interrogation, de ce que vous appelez dans votre livre, de son inquiétude vraiment profonde. Alors parfois, il y a peut-être des excès, mais je pense que c'était important de faire ce travail.
Vous avez raison. Seulement, il y a, étant donné Augustin et l'impact qu'il a sur la sensibilité chrétienne et post-chrétienne dans le domaine du désir, de la sexualité, de la cupidité, de la libido, etc., avec les psychanalystes qui s'intéressent à ces textes, etc., on est quand même obligé à une certaine précision.
J'ai essayé de l'être. Alors, je ne dis pas que sur une œuvre comme ça, mais j'ai essayé d'être. C'est-à-dire que libido, je l'ai traduit soit par libido, volontairement. Alors, on me l'a déjà reproché, ça, mais j'assume, soit par désir. Et cupiditas, je l'ai traduit par envie, par désir, par cupidité.
Là, oui. Donc, voilà. On a le choix.
Alors, après, effectivement, il a pu arriver qu'à un moment donné.
Bien, alors maintenant, nous parlons du texte lui-même et de l'effet qu'il produit. Travaillant cette émission, j'ai lu attentivement votre traduction, Frédéric Boyer, et je me reportais aussi à celle que j'ai déjà citée d'Arnaud Dandy, traduction de Port-Royal, qui est publiée en poche dans la collection Folio, qui est une très belle traduction dans la langue du grand siècle. Il ne s'agit pas là de comparer, mais vous dites que vous voulez faire sentir la violence et l'inquiétude de saint Augustin, et vous y réussissez, mais on voit aussi, précisément par la contemporanéité où nous sommes placés, toute la distance qui nous sépare de saint Augustin. Nous avons beau vouloir le doter d'une partie de notre vocabulaire, je suis frappé par cela. Par exemple, dans le livre 10, Augustin dit « Vous me défendez, mon Dieu, de me laisser emporter au désir de la chair, à la convoitise des yeux et à l'ambition du siècle ». Ce sont les trois thèmes, les trois concupiscences, la curiosité, les plaisirs sensibles, le désir, l'ambition ou l'orgueil. La modernité se définit, me semble-t-il, très exactement, à tort ou à raison, et peut-être à tort, et peut-être que saint Augustin peut nous faire percevoir nos limites, par la réhabilitation de ces trois passions ou de ces trois désordres de l'âme. La curiosité, bien sûr. La curiosité que saint Augustin condamne et réhabilite, elle fonde, comme dirait Hans Blumenberg, la légitimité des temps modernes. L'ambition aussi, je me réfère ici au Novum Organum de Bacon. Il dit qu'il faut distinguer trois genres et trois degrés d'ambition. Le premier comprend ces hommes qui sont avides d'accroître leur propre puissance au sein de leur pays. C'est le genre le plus commun et le plus vil. Le second comprend ceux qui s'efforcent d'accroître la puissance et l'empire de leur patrie au sein du genre humain. Ce genre montre plus de dignité, mais non moins d'avidité. Mais qu'un homme travaille à restaurer et à accroître la puissance et l'empire du genre humain sur lui-même, sur l'univers, cette ambition-là, sans doute, est plus sage et plus noble que les autres. Donc, réhabilitation de l'ambition, et notamment de celle de l'ambition du pouvoir du genre humain. Et quant à la concupiscence, c'est aussi cela qui nous éloigne le plus. Il y a une obsession chez Augustin de la débauche, sortir de la débauche, être gagné enfin par l'abstinence. D'ailleurs, il y a un moment essentiel où il tombe sur quelques lignes de celui que vous appeliez l'envoyé. Vous parlez du codex de l'envoyé. Je suis plus à l'aise avec les épîtres de Paul, où précisément, il dit assez de fornication. Et quand il interprète l'expression croissée et multipliée, il l'interprète en un sens allégorique. Il faut faire croître et multiplier les significations. Donc il y a là un fossé. Pour le lecteur que je suis, alors comment réagissez-vous vous-même, Jean-Claude Dessalin ?
C'est-à-dire, en ébauchant le petit travail qu'à mon avis, en tant que moderne, nous sommes obligés de faire sur ces mots de concupiscence, désir, cupidité, libido, je me suis aperçu avec avec surprise que la réhabilitation dont vous parlez, Alain Finkielkraut, était déjà celle de Julien Desclanes. Donc il y a eu, vers 410, c'est là que vraiment Augustin est un fondateur de notre civilisation. Julien Desclanes était un évêque marié et il faisait une louange du désir, et louange du désir dans le mariage, bon, mais louange du désir, et il employait le mot concupiscentia. Donc il n'avait pas du tout cette nuance qu'il a prise à ce moment-là. Alors, on est devant des abîmes de perplexité en se disant qu'à un moment donné, le christianisme, je crois, finalement, a pris avec Augustin une direction, alors que peut-être il aurait pu prendre cette direction de sagesse morale, bien réglée, maîtrisée, etc., qui probablement quand même connaît moins les profondeurs de l'homme qu'Augustin, mais qui aurait pu développer une sorte de christianisme moins sombre. Moi, ça me...
Parce qu'une occasion manquée, alors, vous diriez...
Non, je n'irai pas jusque-là, parce que...
Si, quand même, il y a eu... Enfin, c'est pas une occasion manquée, mais il y a eu quand même une grande... Enfin, c'est la confrontation avec Pélage.
Voilà.
Donc, Julien Desclanes était un adepte, un disciple. Donc, effectivement, cette confrontation, quand même, qui a fait notre monde, quand même, effectivement. Et même si après, à partir du XVIIIe siècle, on peut dire que les idées de ce que vous dites, je crois, dans votre petit livre, que les idées, effectivement, pélagiennes, de certaine façon, dans la pensée contemporaine, ont repris le dessus, sans que ce soit... vous le dites très bien. Sans que ce
Pélage
soit,
disant que la nature humaine est bonne.
Voilà. Sans que ce soit analysé comme tel. Mais donc, pour répondre à la question d'Alain Finkielkraut, effectivement, c'est quand même, à partir d'Augustin, il y a une sorte de tension qui se met en place et qui est peut-être, dont peut-être on n'est toujours pas sorti d'ailleurs, hein, une tension qui est constitutive de notre...
Une tension et peut-être
de ce
aussi
monde occidental et cet homme occidental.
Une obsession, malgré tout, du péché de la chair, auquel il oppose la chasteté, la continence, l'abstinence. Je voudrais lire dans votre traduction, Frédéric Boyer, cet épisode, parce que, évidemment, la grande beauté des confessions, la grande modernité, c'est leur caractère narratif. Donc, ce sont des épisodes et il y en a un très frappant. Il entend une voix d'enfant, garçon ou fille, attrapez-li, c'est une chanson, son visage change, perplexe. Était-ce une rengaine quelconque que les enfants avaient l'habitude de chanter en jouant? Non, ça ne me disait rien. Et puis à ce moment-là, il revient vers son ami et il revient précipitamment donc à l'endroit où était assis Alipius son ami. Il attrape ce que vous appelez donc le codex de l'envoyé. Il l'ouvre et il lit en silence le premier chapitre sur lequel tombent ses yeux. Pas de ripaille ni de soûlerie, pas de coucherie ni de débauche, pas de querelle ni de jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, ne faites pas vôtre la préoccupation de la chair qui vous jette dans des désirs fous. Il voit que votre traduction est très, très prenante en quelque sorte, mais on se dit, oui, là, là est née peut-être l'obsession chrétienne du péché de la chair.
Probablement. Mais si Augustin n'avait pas gagné toute l'Église latine occidentale et finalement toute la civilisation occidentale, nous serions peut-être donc des moralistes chrétiens, des humanistes chrétiens, finalement assez acceptables, en meilleure position peut-être qu'aujourd'hui. Tandis que quand Augustin, comme dit Peter Brown, là, son grand historien, a discerné jusque dans l'acte sexuel lui-même une sorte de faille, bon, etc., c'est sûr que, en un sens, il a fait avancer l'Occident d'une façon différente de l'Orient chrétien ou de la romanité.
De la romanité, en tout cas.
De la romanité.
Et puis alors, autre chose que je trouve très frappant, c'est le caractère de la conversion d'Augustin. Parce que conversion, aujourd'hui, cela nous évoque un paradigme, l'opposition entre la mécréance et la créance. On ne croit pas et soudain, on croit. Or, il s'agit de toute autre chose, puisque saint Augustin, après avoir appris l'éloquence, la rhétorique, a rencontré avec Cicéron la philosophie. Et la philosophie, c'est une contemplation du divin, en fait. Donc, c'est une conversion non pas qui va de l'athéisme à la croyance, mais du Dieu selon la philosophie au Dieu selon le christianisme. Et ce Dieu, me semble-t-il, n'est pas le Dieu de la foi, au sens où on entend ce mot aujourd'hui, ni même du pari de Pascal. C'est un Dieu devant lequel on se tient. Autrement dit, la foi, c'est pas une confiance, une créance, c'est en quelque sorte une relation. On est dans un domaine qui est celui de l'intersubjectivité, d'où les multiples sens du mot aveu. Donc on passe en quelque sorte de la contemplation à la conversation. Et Brown, dans le livre que vous citez, Peter Brown, La vie de Saint-Augustin, a cette phrase « Plotin n'a jamais bavardé avec l'un comme le fait Augustin dans les confessions. Il ne bavarde pas, mais il converse avec Dieu. » Et ça, c'est une image de la foi que je trouve extrêmement forte. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu existe ou non, il est acquis qu'il existe, mais c'est un Dieu personnel avec qui l'on parle et que l'on va trouver à l'intérieur de soi comme quelque chose qui est supérieur à soi. Frédéric Boyer.
Oui, tout à fait. C'est un interlocuteur, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, c'est quelqu'un à qui l'on parle, qui nous parle. Donc c'est un gros bouleversement quand même hein, dans la culture antique. Hein, cette espèce de Dieu à qui on parle, à qui on s'adresse et qui nous parle et avec qui on répond. Et même... On peut même aller plus loin, parce que c'est le rapport aussi aux Écritures, qui est quelque chose qui, dans les confessions, est analysé de façon que moi je trouve décisive et tout à fait admirable. C'est dans le livre 12 des confessions, où il l'explique, et pour moi c'est fondateur de la culture qui va suivre, hein, où il explique effectivement notre devoir d'interprétation des Écritures. Aujourd'hui, ça fait du bien de rappeler ça. Hein. Là, pour le coup, on est... C'est-à-dire que les Écritures sacrées, les Écritures saintes, doivent être interprétées, doivent être discutées, et dans un très beau passage, ils font d'une sorte d'herméneutique moderne, où il dit il faut accueillir les interprétations des autres. Voilà. Pour que mon interprétation soit dans la vérité, je dois aussi entendre la vérité de l'interprétation des autres. C'est quelque chose aussi de fondateur dans ce livre. Et ça aussi est tout à fait moderne et neuf à l'époque, en tout cas.
Jean-Claude Desselin.
Mais je dirais que j'ai toujours eu une difficulté par rapport au livre des confessions. Et je crois que notre approche de lecture est quand même un peu faussée parce que c'était une œuvre publique pour le grand public de l'époque. Et certains disent que, loin d'être une autobiographie, car chaque épisode est reconstruit littérairement, d'ailleurs, comme c'est parfaitement légitime, c'était aussi un désir d'appeler à la conversion, en particulier certains anciens amis manichéens. Et alors, du coup, on comprend mieux la composition du livre, 9 livres qui racontent sa vie et 4 livres d'allure philosophique. Et je me demandais toujours pourquoi les livres 12 et 13 étaient si abondants sur la question de la création. Au début, Dieu fit le ciel et la terre. Mais évidemment, si on voit les interlocuteurs manichéens, on comprend à ce moment-là que Augustin, dans ce livre, réhabilite la bonté de l'œuvre de Dieu.
Alors justement, je voudrais qu'on aborde deux sujets maintenant, celui de la multiplicité des interprétations d'abord, et celui du rapport ensuite de Saint-Augustin avec le manichéisme. Mais la multiplicité des interprétations, oui, sans doute. D'un autre côté, Augustin est l'un, je crois, est l'un des fondateurs de ce qu'on a appelé la théologie de la substitution. Toutes les interprétations, sauf celles des Juifs, puisque eux, ils sont porteurs d'écritures qu'ils ne comprennent pas. Et pourquoi ne la comprennent-ils pas? Parce qu'ils sont charnels. Et là, je fais une toute petite observation, mais c'est plutôt une question, parce que je ne me suis quand même pas reporté au texte latin, mes souvenirs de latin sont malheureusement trop estompés, mais je vois une différence très intéressante dans la traduction d'Arnaud Dandilly, entre la traduction d'Arnaud Dandilly et la vôtre, sur ce point. Arnaud Dandilly dit « Le peuple juif était si grossier et si charnel que Moïse ne jugeait pas à propos de lui parler d'autres ouvrages de Dieu que ceux qui sont visibles et corporels. » Donc, je ne vois pas. Mais, et là, vous dites, je crois, dans le même passage, vous le traduisez, « Il s'adressait à une jeune humanité, à un peuple de chair, et il n'a préféré ne lui présenter que les œuvres du Dieu visible. Donc, cette polémique...
Parce qu'il n'y a pas le mot juif dans le texte original.
D'accord. C'est donc, c'est vous qui avez raison. C'est très intéressant. C'est vous qui avez raison. D'un autre côté...
Effectivement, il vise ce peuple-là.
Il vise ce peuple-là, donc c'est vous qui avez raison.
Mais il n'emploie pas le mot...
Donc, vous n'édulcorez pas. Mais reste ce problème. C'est-à-dire que... les interprétations sont nécessaires, et je l'ai dit pour croiser et multiplier, notamment qu'il décorporise, si j'ose dire. Mais d'un autre côté, il y a cette volonté d'arracher les Écritures à ses premiers porteurs.
Alors, il n'est pas le premier.
Non, il n'est pas le premier, mais il a joué un rôle.
Mais il a joué un rôle très très important, évidemment. Et évidemment, c'est une question fondamentale, mais qui va, qui va poursuivre le christianisme jusqu'encore aujourd'hui. Hein, donc, il faut pas. Et par contre, alors si on veut non pas rééquilibrer, parce qu'il s'agit pas du tout de rééquilibrer, mais si on veut compléter tout ce dossier-là, qui est capital. Il est quand même un de ceux dans cette Église qui se fonde de façon conséquente à partir du 5e siècle, est quand même un de ceux qui fera en sorte que le christianisme soit toujours attelé à ses anciennes écritures.
Voilà. Alors,
oui, on pourrait ajouter que une des œuvres les plus magnifiques d'Augustin, ce sont les narrations dans les psaumes, et que la sensibilité profonde, je dirais même peut-être quand même, alors l'anthropologie profonde, voilà, d'Augustin reste très proche du judaïsme. Je n'en donne qu'un tout petit exemple. Et il nous considère comme pérégrins, c'est-à-dire au sens technique, résidents permanents, étrangers domiciliés, non pas étrangers sur la terre, mais bon. Alors là, il prend ça à Rome, mais il prend ça finalement au psaume. Lévinas citait souvent un verset de psaume, « Je suis un étranger sur la terre, mais tes commandements m'éclairent ». Je dirais, entre ce qu'on peut dire de l'homme résident, étranger résident sur terre, et Augustin, il y a une très grande proximité.
Alors, deuxième question que je voudrais aborder, celle du rapport d'Augustin avec les manichéens et de manière plus générale avec ce qu'on appelle l'agnose. Il le raconte dans les Confessions. Il a été longtemps adepte du manichéisme, et la conversion est aussi une sortie de cela, et ensuite une sortie de la philosophie elle-même. Mais là, j'ai un problème, parce que le manichéisme et l'agnose en général insiste sur le caractère mauvais de la création. Et saint Augustin dit non, puisque toutes les œuvres de Dieu sont bonnes, la création est bonne. Et si mal il y a, il vient de l'homme lui-même, en tant qu'il est en quelque sorte souillé par le péché d'Adam. Mais d'un autre côté, il en vient à dire justement que Adam a condamné l'homme à mort et que la vie sur terre est une espèce de mort. Autrement dit, il inverse complètement. La mort, c'est la vie bienheureuse. La vie dans le monde, c'est la mort. Et il y a donc une contradiction, me semble-t-il, ou une tension entre cette action de grâce, louange des choses puisqu'elles viennent de Dieu, et en même temps cette condamnation perpétuelle du désir, et par-delà le désir, de tout ce qui nous attache à la terre, de tous ces attachements-là. Comment que pensez-vous de cette contradiction? Est-ce que saint Augustin la résout d'une manière ou d'une autre?
Je dirais que de tous les auteurs que je lis, Augustin, auquel je suis loin d'adhérer en tout, Augustin est celui qui est le plus sensible à l'olfaction, aux odeurs, au toucher, à la beauté de la vue, à la sensibilité. Bien plus que la plupart des philosophes, et bien plus encore que même beaucoup de romanciers et d'écrivains. Alors, c'est ce paradoxe dont on ne peut pas sortir, c'est que cet homme qui met sans arrêt, de fait, une limite à l'estime du sensible, est lui-même un homme dont à la fois le style et la sensibilité sont extrêmement sensibles. Mmh. Moi, j'avoue que je me laisse prendre par ces mots de délectatio, de dilectio, de plaisir, donc de délectatio. La vie est un bonheur, la vie est un plaisir pour Augustin. Je crois qu'à l'époque, la vie était encore un bonheur et un plaisir, malgré ses thèses théologiques, malgré son ascétisme, etc.
Oui, parce que
fondamentalement, cela restait. Alors, est-ce que ça lui venait de la romanité ou de la judaïté ou de lui-même, de l'Afrique, de la terre d'Afrique? Ça, je n'en sais rien.
Donc le paradoxe existe. Parce que le
paradoxe,
l'ascétisme est très fort comme volonté. C'est-à-dire, se convertir, c'est évidemment s'arracher à tous les liens charnels et il n'imagine pas de pouvoir garder femme. Non pas simplement parce qu'il veut devenir prêtre, mais parce qu'il veut devenir authentiquement chrétien et catholique.
Et philosophe.
On
pouvait à l'époque ne pas prendre femme pour mener une vie philosophique. Et au départ, c'était un peu ça, quand même. Mais ça n'empêche que Augustin a laissé partir celle avec laquelle il a vécu 15 ans pour écouter sa mère et préparer un mariage plus ambitieux.
Vie philosophique, vous avez raison. Je voudrais citer un passage de l'Hortensius, justement, de Cicéron, qui a beaucoup frappé Augustin. Faudrait-il rechercher les plaisirs du corps que Platon, avec tant de raison et de gravité, a qualifié de piège et la source de tous les maux? Les impulsions sensuelles sont les plus fortes de toutes et donc les pires adversaires de la philosophie. Quel est l'homme qui, plongé dans cette jouissance, la plus forte de toutes, peut fixer son attention, se servir de sa raison ou même penser à quoi que ce soit? Donc il a déjà trouvé ce désir d'abstinence, ce désir d'en finir avec le désir, dans la philosophie même.
Mais moi, je vous dirais quand même, Augustin, avec cette accentuation unilatérale, injuste, inacceptable, d'un point de vue chrétien finalement, sur la méfiance de la sexualité, par un autre côté, il nous pousse en avant et on est obligé de retrouver, si vous voulez, l'homme occidental est quelqu'un qui se bat avec la sexualité, avec le désir. Et finalement, moi, je crois que ça le mène plus loin, s'il a du courage et s'il avance, ça le mène plus loin qu'une facilité trop grande. Finalement, je me rallie à cette position.
Frédéric Boyer.
Tout à fait, mais c'est le sens aussi de ce livre, Les Confessions ou Les Aveux. C'est quand même, qui décrit des choses extraordinaires pour la première fois dans la littérature. Il va jusqu'à décrire le temps de l'embryon, va jusqu'à décrire des choses très précises, très charnelles, très matérielles. L'érection nocturne. Il va décrire des choses très précises. Il dira, je crois que c'est dans le livre 12, il dira cette phrase formidable: je suis autant celui qui peut rester des heures des heures au soleil à admirer un lézard et en même temps me plonger dans la prière de Dieu. Cette contradiction, elle est dans l'œuvre, elle est dans ce texte en tout cas, et elle est effectivement, comme le dit Jean-Claude Esselin, même effectivement peut-être dans l'homme chrétien et dans l'homme occidental. Ce que vous appelez cette instabilité, c'est quand même très fort, et c'est ce rapport à Dieu qui sans cesse à la fois réveille l'instabilité et peut-être à la fois la calme. Enfin, c'est quelque chose de très fort, mais...
Alors, pour dire un dernier mot sur votre titre, il y a le livre que Michel Foucault n'a pas eu le temps de terminer complètement, mais qu'il aurait peut-être fallu éditer, plutôt que tous ces 10 et écrits qu'il n'avait pas surveillés dans le monde entier, et qui s'intitule « Les aveux de la chair ». Donc là aussi, c'est là que peut-être, avec ce titre-là, on peut faire le lien entre les confessions d'Augustin et... le monde moderne qui va chercher une certaine part de vérité humaine dans la sexualité. C'est-à-dire, évidemment, ça prend... D'une part, le sensible est présent chez Augustin, mais d'autre part, c'est une manière aussi de prendre le monde sensible très au sérieux.
Et puis se dire quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui pour moi est très important, même si effectivement l'œuvre des confessions ne se réduit pas à ça, mais c'est quand même l'œuvre fondatrice de la question de comment se dire aux autres, comment se dire soi, ce qui rejoint Foucault, effectivement, d'ailleurs, je dois dire que d'ailleurs que je le cite dans mon introduction, c'était assez étrange que pas une seule fois Michel Foucault, dans ses séminaires autour de cette question-là, parle très bien de l'exomologèse hellénistique, etc., donc de la confession, et n'évoque jamais les confessions. Il parle des moines, c'est très étrange que ce texte n'ait pas été...
Nous nous égarons peut-être peut-être en insistant tellement, je dirais, sur ce problème du désir et de la sexualité, enfin, est parfaitement normal que nous en parlions longuement, mais il ne faudrait pas oublier que le caractère amical, fraternel de l'expression littéraire et de toute la vie d'Augustin, c'est sans cesse qu'il mentionne les fils des hommes, compagnons de mes joies et de ma mortalité, citoyens avec moi et compagnons de pèlerinage. Enfin, il y a une sorte de fraternité, justement, non pas dans le Christ, mais comme il le dit, en Adam, compagnon de mortalité, qui est un sens de la solidarité entre les hommes, qui est omniprésent aussi.
Et alors, justement, en oubliant ce qu'on appelle aujourd'hui la question sexuelle, je repose ma question, le problème de tout à l'heure. Quelles leçons pouvons-nous tirer aujourd'hui de la rupture d'Augustin avec la secte manichéenne? Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'après tout, Augustin avait deux adversaires théologiques, les manichéens, puis Pélage. À Pélage, il répond par le péché originel, et il fait la même réponse, au fond, aux manichéens. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire, Jean-Claude Esselin?
Quand on parle des manichéens, il s'agissait de manichéens chrétiens. Il s'agissait d'hommes qui se voulaient des philosophes chrétiens, qui avaient une grosse difficulté vis-à-vis de l'autorité des Écritures et de l'autorité de l'Église. Donc c'était des intellectuels modernes de l'époque qui gardaient du christianisme ce qui leur paraissait admissible. Mais c'était des raisonneurs. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier ça, que c'était un groupe de chrétiens raisonneurs. Bon. Alors, évidemment, avec cette facilité qu'a repris à son compte Augustin, de dire ben, « le mal en moi, je n'en suis pas responsable, il vient d'un principe ou autre ». Je crois qu'on, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, on peut dire que par rapport au christianisme oriental, Augustin n'a peut-être pas surmonté complètement la tentation manichéenne. Il affirme sans cesse, pendant les deux derniers livres des Confessions, que la création est profondément bonne. Mais il est vrai que son anthropologie profonde, son obsession du péché, etc., n'a pas du tout la même tonalité que celle du christianisme oriental, qui n'a jamais voulu lire Augustin. Aujourd'hui encore, les chrétiens d'Orient, les orthodoxes, ignorent Augustin. Ils ne le condamnent pas, mais pour eux, ça n'existe pas, d'une certaine manière. Il y a autre chose de possible.
Frédéric Boyer.
Sur les manichéens, d'abord, rappelons qu'il a passé presque 9 ans, une dizaine d'années, proche d'eux. C'est quand même énorme dans une vie intellectuelle. Alors après, on ne sait pas s'il était tout le temps en adhésion parfaite, probablement non, mais quand même pendant plus de 10 ans proche d'eux. Rappelons aussi que c'est un courant, enfin, à l'époque on disait une secte, ça n'avait pas de caractère, le caractère péjoratif que le mot a pris aujourd'hui. C'est une secte très importante, effectivement, en Afrique et même en Asie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, les travaux de Michel Tardieu au Collège de France sur le manichéisme sont très importants. C'est pas une réhabilitation, mais pour montrer l'importance, c'est-à-dire, ça n'est pas non plus la caricature qu'on peut en avoir aujourd'hui. Hein. C'était un courant de pensée très important qui, effectivement, a colonisé entre guillemets une part du christianisme africain qui s'est implanté en Asie, qui a survécu jusqu'au 11e siècle, hein, ce qui est quand même assez conséquent. Et effectivement, il en a été très imprégné. Moi, je pense qu'effectivement, Augustin n'a pas pu, du jour au lendemain, effacer toute l'imprégnation manichéenne qu'il a pu recevoir. Ça, je ne crois pas, effectivement.
Et toute la tactique de Julien Desclanes, j'insiste beaucoup sur l'importance de cet auteur, qui est un intellectuel de valeur et un chrétien de valeur. Toute la tactique de Julien Desclanes, à la fin de la vie d'Augustin, consiste à dire, mais vous voyez, vous retombez dans vos hérésies, vos erreurs manichéennes.
Non, mais j'en parle aussi parce que le mot manichéisme demeure. et peut-être la réalité aussi. Une pensée binaire, une opposition entre le royaume des Lumières et le royaume des Ténèbres, un principe du mal qu'on peut, disons, en quelque sorte, dont on peut se décharger en disant ben, « s'il y a du mal en moi, cela n'est pas ma faute ». Donc, la question que j'ai envie de me poser, c'est-à-dire, sommes-nous, nous autres modernes et post-chrétiens, plutôt les héritiers du manichéisme ou plutôt les héritiers d'Augustin ?
Nous sommes les héritiers du manichéisme. Alors là, oui, vous m'aidez, pour ainsi dire. Nous pensons, c'est vrai, de façon un peu binaire, et contrairement à ce que je viens de dire, peut-être un peu rapidement, ce que j'aime dans Augustin, c'est que il n'est jamais du côté de l'Église des purs ou du groupe des purs. Et ce qui est extraordinaire dans la Cité de Dieu, c'est que on ne devient bon que quand on reconnaît que son point de départ. Et surtout, il n'y a aucune séparation entre celui qui est bon et celui qui est méchant. Et Augustin dit sans cesse aujourd'hui, toi qui est vertueux, qui triomphe, tu peux, demain tu vas tomber. Et il y a solidarité, je dirais aussi très, très profonde chez lui, entre le fidèle qui n'est pas plus en position de sécurité et l'incroyant qui éprouve la même mortalité que lui. Donc cette solidarité métaphysique entre les hommes, où il n'y a pas de pur et d'impur, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans l'œuvre d'Augustin.
Bien, donc il vaut mieux être augustinien que manichéen à choisir. Merci beaucoup Frédéric Boyer, merci Jean-Claude Esselin. Alors, je rappelle Frédéric Boyer, la traduction que vous venez de faire paraître aux éditions POL, Les Aveux, nouvelle traduction des Confessions. Je voudrais citer également le livre que Jean-Claude Esselin a consacré à Saint-Augustin, Saint-Augustin, l'homme occidental. Il est publié chez Michalon dans la collection Le Bien commun. Et enfin, je voudrais aussi citer un autre livre très beau de la philosophe espagnole que l'on redécouvre aujourd'hui, qui a été, je crois, une disciple d'Ortega y Gasset, qui est morte en 1991, Maria Zambrano. Ce livre s'intitule La confession genre littéraire. Il est publié chez Jérôme Millon. C'est un très beau livre et c'est un livre qui donne toute son importance à Saint-Augustin et qui repose sur une sorte de cette importance repose sur la volonté d'Augustin, selon Maria Zambrano, de combler, en quelque sorte, de remplir le fossé placé par la philosophie entre la vie et la vérité. Voilà donc Maria Zambrano, la confession genre littéraire. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'avènement de la démocratie. Mes invités seront Marcel Gauchet et Robert Legros. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et Didier Lagarde, à la technique Alexandre Dang.